les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Beethoven, année 200, à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance de Beethoven en 1770, Brigitte et Jean Massin ont tenté de comprendre en quoi une paternité du romantisme par Beethoven est justifiée. Du moins, ce type de répercussion est-il l'axe examiné tout au long de ce cinquième cycle de la série ? Répercussion de l'œuvre, de son temps à nos jours, et ici, deuxième séquence, Beethoven et les autres romantiques nés entre 1803 et 1813.
Cher Olivier, Alain, vous aviez conclu notre entretien précédent en disant que, à partir de Beethoven, l'histoire de la musique devenait l'histoire des compositeurs. Il me semble donc normal que nous retournions notre propos maintenant, et que la dernière fois nous étant demandé en quoi Beethoven ouvrait le champ aux romantiques, nous nous demandions maintenant en quoi chaque romantique s'est retourné vers Beethoven et s'est situé par rapport à cette grande ombre à la fois stimulante et parfois gênante.
Autrement dit, il s'agira de situer d'une façon positive ou négative chacun des grands compositeurs romantiques vis-à-vis de leur père légitime, naturel, ou même d'un ancêtre dont ils se sont tenus soigneusement à l'écart.
C'est cela.
Le cas se rencontrera vraisemblablement.
Disons que nous ne ferons pas de psychanalyse dans cette émission, mais qu'il y aurait chez tous les musiciens romantiques, à quelque degré, une sorte de complexe d'Édipe à l'égard de Beethoven, chacun d'entre eux essayant de reprendre la succession, de s'assurer comme l'héritier légitime et éprouvant en même temps quelques gênes, parfois à l'égard d'un père terriblement encombrant par son génie même.
Partons, si vous le voulez bien, du premier, sans doute, en date des musiciens après Beethoven, c'est-à-dire des musiciens exactement contemporains de Beethoven, Schubert, qui se reconnaissait du reste une dette de reconnaissance envers Beethoven. À tel point même qu'il avait eu ce cri du cœur quand un de ses jeunes amis lui avait dit qu'il serait, lui, un grand musicien, il s'était écrié « Que faire après Beethoven ?» Et au fond, on a l'impression que pour Schubert, il y a toujours eu un complexe vis-à-vis de son aîné, qu'il a quand même été gêné sans doute par l'ombre trop grande de Beethoven, d'autant plus qu'ils vivaient tous deux à Vienne et qu'ils ne se rencontraient pas finalement.
Oui, d'autant que Brigitte Massin, vous parliez de contemporains exacts, Schubert était tout de même beaucoup plus jeune que Beethoven.
Oui, enfin, il est mort un an après Beethoven, donc il y avait une
C'est
génération,
ça.
Disons, entre eux, et pourtant...
Ils ont vécu à la même époque, oui.
Or, dès son enfance, Schubert recopie des textes de Beethoven. On a notamment de lui le début de la 4e symphonie recopiée de sa main.
Des textes musicaux.
Des textes oui. musicaux. Plus tard, même encore en 1821, il recopie un Lied de Beethoven en entier. L'admiration est permanente et constante. Et la seule œuvre qu'il ait dédiée à Beethoven, ce sont 10 variations pour piano à 4 mains sur un thème français, « Reposez-vous, bon chevalier », dû à la reine Hortense, plus exactement à Drouet. Et on peut s'interroger pour savoir pourquoi il a en somme publié cette œuvre, non pas mineure, mais non pas la plus importante de ses œuvres pour piano à Beethoven. Et la réponse est immédiatement donnée par le fait que c'était au fond, mis à part quelques valses précédemment publiées, la première de ses œuvres pour piano publiées. Ce qui est quand même assez significatif de son sentiment à l'égard de Beethoven.
Il tenait à lui faire hommage de la première de ses œuvres.
Au fond, oui. Et alors, pour ce qui est de la présence de Beethoven dans l'œuvre de Schubert, je crois qu'on pourrait la remarquer à bien des égards, certainement dans ses premières symphonies, qui du reste sont encore aussi un peu mozartiennes ou bien haydniennes par certains côtés, mais je pense à la 3e où certaines influences de la pastorale sont évidentes. Et alors, je pense surtout que la présence de Beethoven dans l'œuvre de Schubert devrait se retrouver dans les grandes sonates pour piano, notamment dans la sonate Reliquiae, la sonate inachevée en ut majeur, ou alors à la fois l'utilisation du thème fatidique, souvent repris par Schubert, toujours associé à une image du destin, comme dans le Lied Le Nain, l'est à nouveau dans cette sonate pour piano d'une manière très claire et dans un contexte qui lutte au fond entre une conception quasi beethovenienne et une conception tellement schubertienne. On a l'impression d'un antagonisme non résolu.
Ça, c'est une impression que j'ai très souvent ressentie dans l'œuvre de Schubert. Un problème de jonction entre le désir de construire les grandes architectures héroïques à la Beethoven et l'expression intime directe.
On pourrait encore d'ailleurs citer dans le même sens le dernier mouvement de la Grande Symphonie en ut majeur, où il y a une sorte d'ombre lumineuse de la 9e symphonie qui se profile et où, la même chose, il y a antagonisme.
C'était donc le début de la sonate en ut majeur, dite Reliquier de Schubert. Il me semble que, pour Schubert, le problème vis-à-vis de Beethoven va se situer différemment après la mort de Beethoven. Que Schubert en ait eu conscience ou non, j'ai l'impression que la mort de Beethoven a apporté chez lui une espèce de libération par rapport au père. Et notamment dans ce qui est du domaine des sonates pour piano, il se trouve, est-ce que c'est simplement par hasard, qu'entre la mort de Beethoven et la propre mort de Schubert, il va y avoir chez lui une éclosion, une véritable libération dans l'ordre pianistique.
C'est possible. D'ailleurs, nous avions dit que nous ne ferions pas de psychanalyse, mais pensez-vous, Brigitte Massin, qu'il serait trop audacieux de voir dans l'un des premiers leaders de Schubert, je veux dire le roi des zones, l'image d'un arrachement du fils au père par un personnage mystérieux qui serait peut-être le dieu de la musique?
Ah, c'est pas impossible, on pourrait le prendre comme ça. En tout cas, ça vient dans la ligne du sens épique du roi des Aulnes.
En tout cas, dans le début de cette sonate, le contraste s'est établi entre le familier d'abord et le grandiose ensuite, avec les tentatives de développement par fractionnement, par répétition à la Beethoven. Un morceau de Schubert parmi les plus connus nous présente cette antithèse et ce contraste en ordre inverse. Par exemple, le premier mouvement de l'inachevé, où nous partons dans une ambiance de mystère grandiose, dans un mouvement épique, et le deuxième thème est une petite valse viennoise, presque à Lendler, extrêmement familier. On trouverait peut-être des contrastes du même genre chez Brahms, par exemple le final de la 4e symphonie de Brahms, où il y a contraste cette fois entre une construction rigide, savante, forme passacaille, et un deuxième thème qui lui reprend une allure plus populaire. Mais il y a tout de même plus d'homogénéité spontané chez Brahms, peut-être, que chez Schubert.
En tout cas, ici, nous voyons assez nettement, il me semble, ce qui déjà est apporté par Beethoven à Schubert et ce que nous allons retrouver, je pense, chez les autres musiciens dont nous allons parler, à savoir une leçon d'héroïsme dans la carrure, une leçon d'amplitude dans l'ambition. la volonté et la possibilité d'aspirer à faire de grandes choses et à les faire très largement. L'exemple me paraît d'autant plus important ici que précisément nous nous trouvons devant un tempérament aussi différent de celui de Beethoven que l'est le tempérament schubertien. À savoir, si je peux dire, que chaque homme a le courage qui lui ressemble. Le courage de Schubert n'est pas le courage de Beethoven, et on pourrait dire dans le même sens que le courage de Beethoven n'était pas le courage de Mozart, par exemple. Mais c'est une leçon de courage, pas seulement au sens moral, naturellement, mais au sens d'aller jusqu'au bout de soi-même dans sa musique que Beethoven a apportée à Schubert. Schubert a eu à lutter pour se réaliser grâce à Beethoven et au-delà de Beethoven d'une autre manière.
On pourrait peut-être, Jean Massin, pousser encore plus loin cette idée et se demander si, dans une certaine mesure, le courage, l'héroïsme beethovenien n'a pas été une sorte de danger et peut-être de déviation pour une génération romantique qui était peut-être moins attirée spontanément par les grandes architectures et les grandes formes que vers la création d'ambiances et de pièces de caractère du genre ballade, romance sans parole, berceuse, nocturne, intermezzo.
Oui, et une génération qui, par ailleurs, n'était pas soutenue, n'était pas propulsée, si je peux dire, par l'héroïsme diffus de la période de la Révolution française. Il ne faut pas l'oublier non plus.
Au contraire, elle était portée par une vie de société, de petits groupes, qui était celle de la Restauration.
C'était l'héroïsme de solitaire.
Avec tous les souvenirs des époques dramatiques que l'Europe venait de traverser.
Avec Schubert, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a que la musique de Beethoven qui compte. Il n'y a pas encore sa légende. Beethoven n'est pas encore devenu l'espèce de demi-dieu du héros romantique.
Schubert a connu et entendu Beethoven.
Évidemment, ils buvaient un pot dans les mêmes cafés tous les deux. Ça n'était pas encore.
Ils se croisaient dans la rue. C'était enfin l'homme quotidien.
C'est ça.
L'œuvre n'était pas du quotidien, mais l'homme était du quotidien.
Oui, comme Boulez rencontre Messiaen rue de Rome.
Exactement. C'était pas un personnage mythique.
C'est vrai que pour la génération suivante, alors disons celle de Schumann Mendelssohn, il y a déjà un mythe.
Et lorsque le jeune Mendelssohn joue la 5e symphonie sur le piano de Goethe à Weimar, il s'agit déjà du demi-dieu qui est entré dans sa légende. Alors Olivier Alain, comment est-ce que ça se pose pour Mendelssohn ?
On a l'impression que Mendelssohn, tout en reconnaissant la stature énorme de Beethoven, n'a pas subi cette influence d'une façon tellement prépondérante. Je pense que la personnalité de Mendelssohn est davantage caractérisée, d'une part, par un certain côté poétique qui se traduira dans les pièces brèves.
Ou les romances sans parole.
Par exemple, la pièce fugitive. On peut penser, si l'on veut, à un équivalent littéraire au poème de Marceline Desbordes-Valmore. C'est l'époque de la romance et tous les musiciens romantiques en seront plus ou moins marqués. On trouvera ce titre chez la plupart d'entre eux. Mais alors, il y a aussi, d'autre part, chez Mendelssohn, le retour à Bach. Si on l'en veut, Beethoven, dans une certaine mesure, a peut-être été le véhicule de cette influence, puisque nous savons que Beethoven a pratiqué beaucoup de pages de Bach. Mais peut-être le culte de Bach chez Mendelssohn a-t-il été une sorte de protection contre l'influence géante de Beethoven.
Ah oui.
C'est peut-être sous cet angle que Bach a joué un aussi grand rôle.
Équilibrer le père par le grand-père.
Voilà. C'est ça. On a quand même l'impression qu'il a été sensible, lui, comme le sera Schumann, on aura l'occasion de le dire tout à l'heure, à certaines formes d'architecture beethovenienne. Je pense par exemple à deux de ses œuvres, la sonate en mi majeur, où il me semble que dans la construction même, des mouvements enchaînés, des récitatifs mêlés à des passages plus nettement lyriques,
oui,
des retours
certainement.
Thématiques,
oui,
des unités
oui,
thématiques.
Bien sûr,
il y a là quelque chose qui est quand même qui prouve une attention à ce qu'étaient enfin les architectures beethoveniennes.
Exactement, on pourrait citer de la même manière le début de l'oratorio Elias qui commence par une phrase de récitatif et aussitôt enchaîne une ouverture sombre d'écriture fuguée d'ailleurs, mais sur un thème et des rythmes assez beethoveniens. Seulement, je pense que dans ce domaine, il ne s'agit pas des œuvres majeures de Mendelssohn.
Oui, c'est vrai du reste.
Il ne s'agit pas réellement d'une poétique proprement mendelssohnienne, mais d'une poétique hétérogène parce que formée d'héritages oui. Plus ou moins convergents. Les sonates pour piano de Mendelssohn ne figurent plus au concert. Et je sais bien qu'il peut y avoir des erreurs de choix quelquefois de la part des musiciens, mais enfin on ne peut pas les considérer comme ses chefs-d'œuvre. à l'égal du Songe d'une nuit d'été, du concerto pour violon ou même de la symphonie écossaise.
Alors Schumann est plus révélateur.
Schumann est plus révélateur, peut-être parce qu'il a eu plus de difficultés et moins de confiance en lui au début. Il ne s'est longtemps pas considéré comme un pur musicien et par conséquent, il a toujours eu vis-à-vis de lui-même un certain complexe. Il s'est donc efforcé d'être le plus musicien possible dès ses premières œuvres. En quoi se rattache-t-il à Beethoven ? Bah, à part beaucoup de traits. Je pense que dans sa première période, la grande période pianistique de 1830 à 1840, c'est peut-être dans le domaine de la variation qu'il s'est le plus rapproché de Beethoven. Entre les variations d'Abelli et les études symphoniques pour piano de Schumann, je ne vois pas d'œuvre marquante qui puisse s'aligner à un pareil niveau. Et alors, peut-être, si la technique de développement de la variation a sa source chez Beethoven, peut-être chez Schumann, et notamment dans d'autres séries de variations, alors trouverions-nous l'évolution de la forme variation vers ce qu'on pourrait déjà nommer un carnaval, c'est-à-dire vers la série de pièces de genre, d'ambiance, de pièces très caractérisées sur le plan de la psychologie. Bien sûr, je ne veux pas dire qu'une suite de variations sans titre n'a pas de contenu psychologique, mais en tout cas, l'expression se dégagera toute seule de la musique. Nous n'aurons pas besoin de donner un titre. Tandis que dans le cas des variations romantiques, qui sont comme les premiers carnavals, les successions de facettes d'une même personnalité, ces déguisements, ces travestis, là, nous aurons une naissance simultanée d'une idée et de la musique. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la musique est moins bonne lorsqu'elle naît associée à des idées. Sinon, c'est les trois quarts du répertoire musical qu'il faudrait supprimer, avec des raisons de ce genre.
Et c'est peut-être le moment de rappeler que dans ces carnavals et dans une de ces facettes schumanniennes, il y avait quand même le retour du personnage de Florestan. L'identification de Schumann à Florestan, l'identification même quelquefois dans ses lettres de Clara à Léonore Fidelio. Là, il s'agit aussi d'une espèce d'adhésion, disons, d'ordre psychologique. Mais revenons du carnaval aux études symphoniques dont vous parliez tout à l'heure, Olivier Alain. Écoutons, si vous le voulez bien, le début de ces études variations symphoniques, enregistrées ici par Yves Nat. Le disque est peut-être un peu vieux, mais l'interprétation très belle.
Thank you.
Je n'aime pas beaucoup le mot de florestan parce qu'il est trop souvent employé comme symbole de division intérieure et artificielle et trop commode pour tout expliquer dans la musique de Schumann. Mais lorsque...
Ah oui, Florestan Eusebius.
C'est ça.
Les Mais deux personnages.
Lorsque
oui,
Florestan est une identification de Schumann avec le personnage de l'opéra beethovenien, là, je trouve la chose très intéressante. Et il n'est peut-être pas indifférent de souligner que le seul opéra que Schumann écrira, Genoveva, est également un opéra, un drame conjugal.
Alors peut-être est-ce là que je pourrais vous poser une question. Nous parlions tout à l'heure du courage schubertien, si différent du courage beethovenien et se nourrissant pourtant à des sources beethoveniennes. Il y a aussi un héroïsme schumannien très typique. Quel serait son rapport pour vous avec l'héroïsme beethovenien ?
Il faudrait d'abord discerner ce qu'est exactement l'héroïsme, le courage schumannien. Je crois que...
C'est un courage de poursuivre.
Oui, fondamentalement, pour Schumann, il y a eu la volonté héroïque toute sa vie de poursuivre, tant qu'il fait jour, comme il le disait, l'exploration musicale de ses fantômes, même au risque de se détruire peu à peu. Et par une espèce d'écriture automatique, par l'hallucination, l'usure nerveuse de l'excès de création, de plonger dans la folie. Ce risque, il l'a vu venir, il l'a couru. Et il n'a pas voulu renoncer pour autant à cette création forcenée dont il pensait que c'était son devoir d'artiste. Je crois que c'est essentiellement cela. Qu'il y ait un style héroïque dans certaines de ses œuvres, c'est bien inévitable, puisque cette production forcenée était toujours un combat contre l'ombre, dans une certaine mesure, pour amener à la lumière ce qui sortait de l'ombre, avec une richesse et une abondance qui est fantastique, au moins dans les 20 premières années de la vie musicale de Schumann.
Et par quoi se traduit-elle dans son langage ? La première réponse que j'ai envie de donner, c'est par ses rythmes. On a l'impression qu'il y a une qualité propre de certains rythmes schumanniens qui sont effectivement une mise en route perpétuelle.
Et on pourrait même préciser que dans le domaine rythmique, il y a une extraordinaire variété, abondance et fréquence de rythmes de galopade.
Absolument. Et je me demande dans quelle mesure ces rythmes tellement schumanniens ne dépendent pas aussi d'un certain esprit du scherzo, et presque du scherzo beethovenien.
C'est fort possible. Dans les symphonies, dans la musique de chambre, les scherzos sont très souvent parmi les pages les plus réussies de la production schumannienne. Si on prend d'autre part une série comme les Kreisleriana, on voit alterner des scherzos fantastiques avec des pages de pure rêverie.
Alors il y a ce côté qui est en même temps presque l'ancienne activité presque ludique du scherzo, mais transformée cette fois-ci dans une veine vraiment héroïque.
Mais l'exploration dans la nuit se traduit par ces chevauchées fantastiques. Et cela est un aspect essentiel du romantisme, du romantisme germanique en particulier.
Et alors là, je pense que la liaison entre Beethoven et Schumann s'inscrit par cette recherche même de la lumière au sein de la nuit. Car si Schumann est pour nous le romantique par excellence, peut-être, c'est précisément parce qu'il a poussé plus loin que les autres cette recherche jusqu'aux sources obscures de l'inconscient. Or là, déjà, Beethoven avait frayé la route.
Bien sûr. Alors sur le plan de la technique musicale elle-même, on pourrait multiplier chez Schumann les exemples de legs techniques beethoveniens. Par exemple, le scherzo à double trio, créé par Beethoven, et employé extrêmement souvent par Schumann. Ou alors même l'emploi psychologique du retour de thème, dans lequel le rôle de Schumann est important à la même époque que Berlioz, et en direction de ce que deviendra le motif conducteur chez Wagner ou la grande variation monothématique chez Liszt.
La quatrième de ses symphonies, par exemple.
La symphonie en ut majeur, la symphonie en ré mineur, la
symphonie en ré mineur qui s'appelait du reste Fantaisie symphonique. Donc il y avait là aussi cette espèce de plan d'architecture qui voulait, au fond dépendante presque de la 9e symphonie de Beethoven, qui voulait casser ses formes.
Également. Et le cas de la sonate pour piano en fa mineur qui est tout entière issue d'un thème qu'on pourrait appeler thème devise, emprunté par Robert Schumann à une petite pièce pour piano de sa femme Clara Wieck. Si vous le voulez, je peux vous indiquer les cinq notes de ce thème et leur réapparition dans les différents mouvements. Voici ce thème de cinq notes dans le rythme qu'il présente au début même de la sonate, au seuil du premier mouvement. Nous l'entendrons résonner tout du long du premier mouvement. C'est encore lui d'où dérive le thème du scherzo. Mais son identité, si je puis dire, n'est vraiment révélée que dans le mouvement lent qui s'intitule « Quasi variationi andantino de Clara Wieck ». Ici, il résonne à la partie supérieure. On le trouvera aussi de façon fragmentaire dans le thème principal du final. Il est d'ailleurs précédé d'un premier membre de phrase auquel il fournit une réponse. La première formule étant celle-ci. La deuxième est une forme ornementée du thème principal, du thème cyclique de toute la sonate. Nous sommes toujours autour de do, si, la, sol, fa. Le fait de tirer toute une œuvre d'une seule idée, d'une seule cellule, me paraît l'un des témoignages irrécusables de l'héritage beethovenien chez Schumann.
Tout à l'heure, l'un de nous a lancé le nom de Berlioz dans nos propos. Et je ne voudrais pas chercher de transition, je préférerais un contraste bien romantique entre Schumann, le maître du rêve intérieur, et les trompettes éclatantes de Berlioz.
Oui, alors dans ce sens, on pourrait dire de la pathétique de Beethoven à la fantastique de Berlioz. Et là, on retrouverait sans doute une certaine volonté d'expressionnisme.
En tout cas, il me paraît très curieux que deux hommes aussi profondément différents, que deux génies aussi profondément différents, se soient accordés dans une même admiration fanatique pour Beethoven. Et ce n'était sans doute pas le même Beethoven qu'ils admiraient.
C'est encore à voir parce que moi je suis très frappée par l'attention extrême qu'a portée Berlioz à la musique de chambre de Beethoven, qu'il a connue du reste après les symphonies et dont toutes les dernières critiques de Berlioz s'attachent à démontrer la valeur des trios et la valeur des sonates pour piano. À tel point qu'il dit même dans une de ses critiques, le dernier mot de Beethoven, c'est encore dans ses sonates pour piano seules qu'il faut les chercher. Le moment n'est pas loin peut-être où ces œuvres qui laissent loin derrière elles ce qu'il y a de plus avancé dans l'art pourront être comprises, sinon de la foule, au moins d'un public d'élite. Les grandes sonates de Beethoven serviront d'échelle métrique pour mesurer le développement de notre intelligence musicale. Il me semble qu'il y a là plus qu'une compréhension simplement extérieure.
Sûrement, sûrement, et c'est très beau ce texte. Simplement, je voulais dire, en tant que compositeur, en tant que créateur, qu'est-ce que Berlioz a retenu de l'héritage beethovenien ?
Je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire au départ. Il faut se représenter le long interrègne de la musique française, dû à, évidemment en particulier aux événements historiques de cette époque, à la rupture d'un certain nombre de structures traditionnelles qui formaient l'éducation musicale de base des Français. On peut dire que la fleur Berlioz jaillit du désert. Et c'est une partie de sa grandeur, stupéfiante. Et puis alors, il y a le tempérament propre de Berlioz. Et je pense que chez Berlioz, comme chez beaucoup de Français de cette époque, il y a un littéraire qui s'ignore et qui tâchera de s'orienter vers le théâtre. Et toute œuvre de Berlioz me paraît, dans sa tendance, dans son intention, un mouvement de théâtralisation. Lorsqu'il écrit une symphonie, ce ne sera pas une symphonie au sens formel, ce sera une sonate psychologique, c'est le cas de la fantastique. Et lorsqu'il écrira d'autres symphonies, je ne parle pas de la symphonie funèbre et triomphale, mais même celle-là est reliée à une ambiance, à des objets, à des réalités matérielles. Mais ce seront de grands poèmes. Et au fond, si Liszt petiterait plus tard ses œuvres poèmes symphoniques, on peut dire que c'est au fond Berlioz qui, sur le plan de l'orchestre, lui en a donné les premiers exemples.
Ça me fait penser à une critique de Chantavoine, justement par rapport aux héritiers de Beethoven, que finalement me paraît assez juste. Il dit « La symphonie pure et simple n'a pas retenu grand-chose des symphonies beethoveniennes, mais le poème symphonique en a recueilli l'idée, mais le drame lyrique, à savoir le drame wagnérien, en a gardé le langage. » Bon, sans être encore arrivé à Wagner, je pense que c'est peut-être assez vrai.
C'est-à-dire que Berlioz aurait gardé de Beethoven l'intention spectaculaire, la proclamation, au sens le meilleur du terme, sur les planches.
Le besoin d'un public, pour tout dire.
C'est cela.
qu'on sent beaucoup moins chez un musicien comme Schubert ou même comme Schumann.
C'est vrai. Et est-ce qu'il n'y a pas déjà une idée du leitmotiv, enfin, qui pourrait, dans un sens, être, appartenir à...
Oui, sous une forme un peu fruste par rapport à ce que cela sera plus tard chez Wagner. Mais
oui.
Chez Wagner, justement, ce sera beaucoup plus tard. L'idée fixe, oui, de la symphonie fantastique, bien sûr.
Et un principe de la variation aussi, qui est peut-être...
Ce n'est pas ça tellement qui frappe dans l'écriture de Berlioz, à vrai dire, c'est surtout la trouvaille individuelle. Et alors, dans le domaine de la psychologie, c'est la création de ces espèces de fondus enchaînés entre une situation et une autre, une scène et une autre, notamment dans les interludes de la damnation. Et là, Berlioz a deviné des procédés du théâtre moderne et peut-être même du cinéma, parce que le procédé du fondu enchaîné, évidemment, il n'en est pas question au théâtre. Et cependant, la musique le fait pressentir. On le trouve dès les interludes de la damnation, et comme il s'agit d'une réalité psychologique évidente, transition d'un rêve à un autre, si l'on veut, nous avons tous vécu ces transitions dans lesquelles une image se fond petit à petit dans une autre. On retrouve ça, c'est exploité par Wagner, par Debussy dans Pelléas, par Berg dans Wozzeck, etc. Et ça correspond donc à une réalité psychologique constante. Et il est intéressant de noter que c'est dans Berlioz qu'on en a les premiers exemples caractéristiques. Mais évidemment...
Et le germe en serait dans la transition beethovenienne ?
Mais exactement, dans les moyens, dans les procédés de développement. Même si la musique de Berlioz est plus clairement et plus immédiatement psychologique, les moyens techniques employés sont des moyens déjà mis en œuvre par Beethoven.
Nous parlions tout à l'heure de certains traits de langage beethovenien, les préparations, les développements qui ont été assimilés par Berlioz. Mais est-ce que sur le plan justement d'une certaine technique du langage, est-ce qu'il n'y a pas un autre musicien romantique qui s'est encore plus servi, disons, de certains moyens d'expression beethovenienne ?
Je crois que le musicien romantique qui a le plus et le mieux assimilé l'héritage technique de Beethoven, c'est Franz Liszt. Et ceci probablement parce que c'est celui qui a eu le plus conscience de notre devenir psychologique. Il était encore adolescent lorsqu'il a créé le journal en musique. Et dès ce moment, il avait besoin des techniques les plus fines de développement et de variation de l'idée, de la cellule. Une pièce comme la Vallée d'Obermann, qui figure déjà dans l'album d'un voyageur, est entièrement tirée d'une cellule de 3 notes. Et par la suite, la construction des poèmes symphoniques, la construction des concertos pour piano, celle de la sonate en si mineur, tout cela poussera la variation sur un seul thème ou sur plusieurs thèmes à un point qui n'a été qu'indiqué par le dernier Beethoven.
Cette influence déterminante de Franz Liszt sur la musique de l'avenir, il n'y a pas besoin de se demander dans quelle mesure elle procède de l'influence beethovenienne, car Liszt y a répondu lui-même dans une lettre magnifique à Lenz du 2 décembre 1852.
Date curieuse.
Date curieuse, en effet, et que Liszt ne cherchait pas. « Pour nous, musiciens, l'œuvre de Beethoven est semblable à la colonne de nuée et de feu qui conduisit les Israélites à travers le désert. Colonne de nuée pour nous conduire le jour, colonne de feu pour nous éclairer la nuit, afin que nous marchions jour et nuit. Son obscurité et sa lumière nous tracent également la voie que nous devons suivre. » Partant de là, Liszt s'opposait à la division de l'œuvre de Beethoven en trois manières ou en trois styles que préconisait Lenz et disait qu'il était bien plus intéressant de considérer deux catégories. La première, celle où la forme traditionnelle et convenue contient et régit la pensée du maître. La seconde, celle où la pensée étend, brise, recrée et façonne au gré de ses besoins et de ses inspirations la forme et le style. Et Liszt concluait en disant que là, on trouvait la solution du problème du débat entre l'autorité et la liberté, puisqu'il n'y avait pas d'autre autorité valable que celle du génie, celle donc de la liberté parfaite.
Oui, c'est un texte magnifique.
C'est
oui,
un texte superbe.
Et à ses élèves compositeurs, Liszt disait toujours « Les formes préalables n'existent pas, la forme doit dépendre de la nature même de l'idée. »
Alors,
et cela, c'est Beethoven qui le lui avait appris.
Exactement.
Enfin, c'est tout le thème des idées poétiques qu'on a déjà développé dans la précédente émission. Et alors, j'ai l'impression que ceci nous fournit un joint absolument impeccable pour
passer du beau-père au gendre.
C'est-à-dire à Wagner, car si quelqu'un a eu justement cette certitude que l'idée poétique devait être déterminante quant à la forme musicale, c'est bien Wagner.
Mais il est évident que le lien qui va de Beethoven à Wagner est facile à saisir. Même si Wagner n'est pas considéré comme un compositeur symphoniste. Bien sûr, il y a l'ouverture de Faust, il y a d'autres pièces. Mais l'écriture même de l'orchestre dans les opéras de Wagner ne serait pas possible si d'une part il n'y avait pas la référence à Beethoven au départ et d'autre part l'intermédiaire indispensable qu'a été la musique de ce que Jean Bassin vous appeliez le beau-père tout à l'heure, c'est-à-dire la musique de Franz Liszt. Car ça me semble assez paradoxal, mais finalement Wagner aura connu sous leur plus belle forme d'exécution les symphonies de Beethoven dans la France de Habeneck ou de Berlioz. Par conséquent, c'est là qu'il a pu vraiment en mesurer la grandeur.
Oui, il les connaissait déjà avant de venir en France. Il les avait lus avec beaucoup d'intérêt.
Et alors, en matière de langage et de procédés de développement tirés de Beethoven, mais poussés jusqu'à leur dernière conséquence, c'est la musique de Franz Liszt qui a été pour lui l'intermédiaire. Sans Beethoven et sans Liszt, on ne pourrait pas comprendre l'évolution, surtout l'évolution extrêmement rapide de Wagner dans le milieu de sa carrière, entre des opéras comme Lohengrin et Tannhäuser et tout ce qui vient ensuite, l'Anneau des Nibelungen, Tristan, les maîtres chanteurs. Il y a une maturation d'une vitesse incroyable dans l'évolution de Wagner à cette période, à partir du moment où il connaît la musique de Liszt et où il a entendu les symphonies de Beethoven dirigées à Paris par la Société des concerts du Conservatoire dirigée par Habeneck.
Et est-ce qu'on ne peut pas dire qu'avec l'œuvre de Wagner, on arrive à une espèce d'épanouissement de l'idée même de la variation ?
Bien alors, ce que Liszt tentait avec des thèmes purement musicaux et quelquefois soulignés par une intention littéraire dans un programme très général en tête de ses poèmes symphoniques, mais qu'on peut parfaitement écouter sans connaître le programme, Wagner, lui, faisant du théâtre musical, alors à ce moment-là, le moindre fragment thématique, la moindre cellule, la moindre idée avait une signification symbolique, se transformant au gré de la psychologie ou des situations théâtrales. Évidemment, il fallait faire appel à cette technique de transformation des cellules, des motifs, qui a été, on peut le dire, créée par Beethoven et poussée à cette époque-là à son point extrême par Liszt. De sorte que le leitmotiv wagnérien a sa source à travers Liszt dans la technique de développement cellulaire beethovenienne. Pour donner un détail de ce qu'on pourrait appeler cette petite cuisine du génie, je vais prendre simplement un mouvement d'arpège majeur montant. C'est un thème qui est dans toutes les oreilles. Tout le monde a entendu le prélude de l'Or du Rhin. Sous sa première forme, il exprime le mouvement du fleuve, mais il symbolisera aussi la nature, le devenir, l'origine des choses et leur transformation. Bien sûr, ce seul thème avec cette signification première se présente sous des formes rythmiques différentes, puisque, on s'en souvient, tout le prélude est en accélération. Deuxième formule rythmique. Et la troisième est identique mais plus serrée. Ce même dessin, s'ornant de notes intermédiaires, va servir à décrire les vagues. Mais tous les points d'appui seront encore les degrés de cet arpège montant. Si nous passons au mineur, le même mouvement qui exprimait le Rhin ou l'évolution va s'appliquer maintenant à ces êtres mystérieux dans lesquels s'incarne le destin ou la fatalité, Erda ou les Nornes. Nous allons le voir dans un rythme différent exprimer la détresse des dieux. Et cependant, c'est toujours bien le même arpège. Il exprime aussi le frêne cosmique dans lequel a été taillée la lance de Wotan. On peut même voir le début de cet arpège dans divers thèmes héroïques. L'or, par exemple, c'est toujours l'arpège montant. Si nous revenons au mode mineur, nous trouvons le même dessin qui exprime la mort. C'est lui qui forme encore, dans le mode majeur, la plus grande partie du motif de l'épée. C'est également dans la tonalité moelleuse de sol bémol majeur le dessin de l'arc-en-ciel. Tout ceci sont des dérivés de l'arpège. Les dérivations, à vrai dire, on les trouverait à l'infini, à partir d'un mouvement aussi simple, aussi élémentaire qu'un arpège montant. Mais présenté dans le mode majeur ou dans le mode mineur, et rythmé différemment, et surtout placé en situation. L'idée de tels procédés techniques ne pouvait évidemment venir qu'au lendemain de l'œuvre de Beethoven.
Oui, évidemment, on pense à la cinquième symphonie.
Oui, et je pensais aussi à la transformation et à la démultiplication de l'arietta de la 111.
Oui, si je pensais à la cinquième symphonie, c'est à cause de la manière dont ce thème d'une égale simplicité dans la cinquième symphonie prend des formes tellement diverses, tantôt en mineur, tantôt en majeur, et chaque fois avec une signification psychologique tellement nette.
Dans ce rapide tour d'horizon sur cette génération de musiciens romantiques, il me semble qu'on a laissé deux noms de côté, mais c'était sans doute intentionnel. Je pense d'abord à Chopin et puis à Brahms. Chopin est peut-être, de tous ces musiciens dont on vient de parler, celui qui a reçu peut-être le moins directement un certain héritage beethovenien. Il me semble qu'il reste davantage à l'extérieur.
Celui aussi qui a exprimé explicitement les réserves les plus grandes sur Beethoven et qui est loin de communier dans l'enthousiasme avec les cinq que nous avons nommés, Schubert, Schumann, Berlioz, Liszt et Wagner.
Oui, encore qu'il faudrait peut-être nuancer, car toutes les pièces brèves écrites par Chopin n'auraient peut-être pas été écrites de la même manière s'il n'y avait pas eu aussi les bagatelles beethoveniennes ou les pièces brèves beethoveniennes, mais aussi, c'est vrai, celles de Schubert.
De toute façon, le cas de Chopin est celui d'un musicien de génie qui développe un cas particulier du romantisme.
C'est ça.
Ce n'est pas à diminuer sa grandeur que de le constater. C'est la floraison des musiques nationales. Or, on sait le rôle qu'ont eu les musiques nationales dans le développement de la musique dans ce siècle.
Et si Brahms, nous avons laissé Brahms de côté, c'est peut-être parce qu'il est plus tardif.
Oui, peut-être. En tout cas, chez lui, il y a quand même quelques références explicites à l'œuvre.
Oui, légèrement plus tardif, mais aussi parce que nous avons, disposant malgré tout de peu de temps, nous avons tenu à mettre l'accent sur les musiciens qui ont eu un plus grand rôle dans l'évolution de la musique. On peut parfaitement préférer la musique de Brahms à celle de Liszt, ou même à celle de Wagner, mais il est certain que Liszt et Wagner ont infléchi l'histoire de la musique beaucoup plus que ne l'a fait Brahms, qui n'en est pas moins un très grand musicien. La question est tout à fait différente.
La dernière question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si cet héritage beethovenien, qui s'est si merveilleusement diversifié, épanoui, développé dans la génération des musiciens nés entre 1803 et 1813 que nous avons pris aujourd'hui, si cet héritage a été recueilli dans sa totalité ou si sur certains points, il y a une partie du message beethovenien qui n'est pas passée.
La question est extrêmement judicieuse. Je crois qu'il faut commencer par rendre justice à Beethoven en lui disant que tout de même, c'est lui qui a le premier introduit d'une façon évidente le psychologisme dans la musique, mais qu'en fait, son plus grand rôle a été un rôle de bouleverseur des formes, et en particulier la manière dont il a poussé la technique du développement et de la variation. C'est cela, autrement dit, ce sont les moyens techniques créés par Beethoven qui ont le plus servi aux compositeurs de l'époque suivante. Mais s'il y a une chose dont les musiciens postérieurs n'ont pas pu hériter, c'est ce qui constituait, à travers et au-delà des détails du langage, c'est ce qui constituait le caractère de l'homme Beethoven. C'est-à-dire que, par exemple, aucun musicien, si ce n'est peut-être parfois Liszt, n'a pu retrouver l'unanimisme, l'aspiration à une joie collective presque religieuse à force d'être l'expression d'un groupe que Beethoven a si souvent recherché et trouvé avec tant de bonheur dans le final de la 9e symphonie. Lorsque Wagner, de tempérament germanique, a recherché parce qu'il en avait besoin une sorte d'unanimité de ce genre, il l'a fait soit dans une perspective traditionnelle et nationale, par exemple dans Les Maîtres Chanteurs, où il exalte l'unité de la conscience musicale allemande, ou bien alors il l'a cherché encore dans le symbolisme religieux discutable de son Parsifal. Mais chez Beethoven, si l'on regarde l'ensemble de son œuvre, la chose nouvelle, la chose importante pour lui, ce n'était pas tellement la Missa Solemnis, quelle que soit la splendeur de cette œuvre, c'était vraiment l'arrivée de l'hymne à la joie au terme d'une symphonie. Alors à ce moment-là, on peut dire, si cet aspect beethovenien, sur un plan alors généralement humain et non plus seulement musical, si ce point dans l'œuvre de Beethoven n'a guère été repris, c'est peut-être que les romantiques, les fils de Beethoven, n'ont pas dans leur héritage reçu les uns et les autres cet optimisme rayonnant de leur père et sa foi dans l'humanité.
C'est vrai que dans un sens, l'humanité attend encore un nouvel hymne à la joie. Maintenant, il serait parfaitement injuste d'en rendre les romantiques responsables. La marche du monde au XIXe siècle et même au XXe n'était peut-être pas de nature à dégager l'optimisme que Beethoven pouvait recevoir, presque naïvement, des suites immédiates de la Révolution française. Du moins, doit-on dire que les romantiques n'ont pas voulu refermer cette porte que Beethoven avait ouverte si grande. C'est dans ce sens qu'il faut interpréter un certain nombre de leurs tentatives, même le Parsifal de Wagner, je pense, et au-delà de Wagner, les tentatives sur lesquelles nous n'avons pas pu nous étendre aujourd'hui, de Gustav Mahler, par exemple.
Dans la série Beethoven années 200 par Brigitte et Jean Massin, c'était la deuxième partie du cinquième cycle avec Olivier Alain, l'influence de Beethoven dans les œuvres des musiciens allemands et français du 19e siècle. Une émission diffusée la première fois le 15 janvier 1971.